Du plus loin que je retourne ma mémoire, la poésie a toujours été présente. La poésie a toujours été au centre de ma vie. Du plus loin que je retourne, j'ai toujours vécu pour déplacer les choses et les mots. Dans ma vie, il n'y avait pourtant rien. Et ce rien était pour moi quelque chose de fabuleux. Dans ma vie, il n'y avait rien, ni spectacle, ni apparat. Le monde était en apnée. Et c'est pourquoi le ciel avait trouvé sa place, c'est pourquoi j'ai pu dialoguer avec les étoiles, c'est pourquoi j'ai pu obtenir l'amitié des lézards, la complicité des arbres et la bienveillance de la mer. J'étais cet enfant qui n'avait rien et qui ne connaissait pas trop les jeux d'enfants. J'ai toujours fait face à des visages et des paysages. Je me suis alors fondu en ces visages et en ces paysages. Ces paysages avaient des noms simples. Rivière Casimir, Chatry, Cavaillon. Tous ces paysages prennent finalement dans mon corps la forme d'un cerf-volant multicolore ou d'une saison d'arc-en-ciel. Ces visages avaient des noms. C'était Tida, ma grand-mère. C'était Contita. Tida, ma grand-grand-mère, Contita, ma grand-mère, Bertha, ma mère, Mercilia, ma tante, ce sont ces voix-là que je porte en moi. Ce sont ces voix-là qui parlent en moi. Ce sont ces voix de femmes qui m'assaillent, m'étonnent et m'éblouissent à la fois. C'était ma famille, c'est encore ma famille. Donc le poème, mon poème, est un roman familial qui raconte la filiation et la dignité d'un temps perdu et aussi la dignité de ces femmes pauvres mais qui m'ont tout donné. C'est dans un tout petit village qu'est née la fable, ce petit village qui porte le nom de Chatry. C'est dans un tout petit village qu'est né le poème. Et là je pense à Mamoun Darwish qui disait « Aucun peuple n'est plus petit que son poème ». Je voudrais que le poème soit plus grand que moi. Je voudrais que le poème soit plus grand pour témoigner. Je voudrais simplement m'effacer pour laisser place au poème, à sa magnanimité, à sa grandeur, à sa puissance, à son éboulement dans la conscience des uns et des autres. Ceci pour rallumer les étoiles. Tout poète devait pouvoir reprendre les mots de Joséphine Bacon qu'on vient d'écouter en exergue. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Je pense qu'il y a un travail à commencer. Tout un chacun devait trouver ce récit qui ne se raconte pas. Tout un chacun devait penser à se faire beau comme je me le suis fait ce matin et rien que pour vous. Je pense que vous avez vu ça.
Oui, hein? Oui.
D'accord. Donc, je me suis fait. Donc, c'est vraiment étonnant qu'une Amérindienne, on parle des réserves, on parle de sous-humanité. Et c'est ça, la poésie. La poésie nous permet de migrer vers autre que nous-mêmes. Donc, quand Joséphine Bacon écrit « Je me suis faite belle », donc, je voyais autrement le mot beauté, je voyais autrement Joséphine, je voyais autrement les Premières Nations. Et je pense qu'aucun politicien ne peut dire ça. Aucun politicien ne peut mettre dans les mots les rêves. Et quand je lis « Je me suis faite belle », c'est une âme miraculeuse. Donc, je sens qu'il y a un miracle de transformation collective. Je sens qu'il y a une âme massive de beauté, de tendresse et aussi d'humilité. Et donc, faire acte de beauté, je pense que c'est ce qui manque le plus à notre monde. Faire acte de beauté pour accueillir le poème et aussi pour être poème. Et je me suis faite belle. Quand je lis ça, je vois Joséphine, je ne vois pas un visage, je ne vois pas une Amérindienne, je vois un être humain devenu un poème. Et je pense que chaque poète est en soi un poème. Donc, et chaque être humain, chaque poète vit ce poème-là. C'est pourquoi j'ai commencé par « Je me suis faite belle » de Joséphine Bacon. Et il y a un mot qui m'a toujours frappé, c'est le mot « magie ». Et comme dans ma vie, il n'y avait rien, donc je disais en même temps « il y avait tout ». Et il n'y avait rien, il y avait tout. C'était grâce à la magie. Car il y avait place aux rêves. Il y avait place aux rêves. Et sans les rêves, on perd notre âme. Sans les rêves, on perd notre corps. Sans les rêves, on perd le poème que l'on est. Et je pouvais finalement me confondre avec tous les rêves et tous les rêves du monde. Donc je pouvais grandir ma conscience, je pouvais grandir mon corps, je pouvais moi-même rallumer les étoiles simplement parce que, comme le disait si bien Pessoa, je n'étais personne, je ne suis personne, donc tout m'appartient. Toute la puissance du monde est en moi. Donc je vivais davantage dans mon imaginaire que dans ma réalité. Je m'inventais un monde merveilleux et énigmatique. Je dialoguais avec les vents. J'habitais les grottes souterraines. Je naviguais avec la déesse de la mer Simbi en chantant la chanson créole Simbi Nandlo, Simbi Nandlo. Et je méditais longuement sur le conte La Sirène, celle qui était la plus belle et celle qui était plus belle que le soleil et qui recueillait les marins et les noyés et qui leur coiffait de son peigne d'or et qui faisait d'eux des amants fabuleux. Vous voyez, tout petit, je rêvais d'être cet amant fabuleux recueilli par la sirène, transformé par la poésie de la sirène. Je rêvais de me perdre dans la mer rien que pour rencontrer la sirène et pour devenir cet amant prodige. L'apprentissage de la vie m'est venu par la découverte de la mort. Avec le cercueil de Tida, je vous ai parlé de ma famille. Tida, c'est ma grand-grand-mère qui vivait dans une petite maison avec son cercueil au haut de son lit. Il y avait son cercueil. Et à Chatri, tout près de la maison, il y avait la tombe de Tida. Et la tombe était belle et fleurie. La tombe était beaucoup plus belle que la maison. Et j'étais enfant, j'avais 7-8 ans, donc je découvrais ce monde habité par la mort, habité par cet univers de la mort, mais qui n'avait aucune morbidité, parce que ma grand-mère chantait « Quand la mort va venir, nous voilà. Quand viendra la mort, nous l'accueillerons debout. » Donc c'est ce que je chantais avec ma grand-mère. Donc quand après les philosophes vont m'apprendre que vivre c'est apprendre à mourir, je vais voir que Tida, avant, elle qui ne savait pas lire, elle était déjà philosophe. Et il y a un mot que j'aime dire et que mon ami Louise Dupré aime beaucoup, c'est le mot mégalomanie. Je suis un parfait mégalomane. C'est un peu grâce à ça, parce que Tida m'a appris à lire, elle ne savait pas lire. Je trouvais dans la maison où je vivais, il y avait les étoiles, mais il y avait des livres aussi. Il y avait des livres, il y avait la Bible, il y avait le champ d'espérance, il y avait la tombe de Tida, il y avait le cercueil de Tida, et que tous les soirs, Tida chantait tous les soirs sa mort. Et ensemble, avant de dormir, nous lisions le psaume 23 dans cette Bible qu'elle ouvrait. Elle me disait telle page, et psaume 23, et vous allez voir qu'est-ce qui m'a construit. En lisant la Bible, en lisant avec moi, qui ne croit en absolument rien, sauf en la poésie. Et puis je lisais tous les soirs la Bible. Et ce qu'on dit, ce que je lisais, c'était ça. Et je me surprends ce matin dans le métro à lire dans ma tête le psaume, le cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est ça tous les soirs, je lisais dans ce petit village qu'on pourrait appeler, que les gens de FMI, les banquiers appelleraient la pauvreté absolue, mais c'est dans ce petit village, je lisais avec ma grand-mère, l'Éternel est mon berger. Moi, j'avais un berger qui s'appelait l'Éternel. Et ce berger, avec ce berger, j'ai appris une chose, c'est que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Donc vous voyez, donc j'étais un enfant rassuré qui n'avait peur de rien, même pas du manque. Donc il n'y avait aucune idée de perte. Donc, et c'est là qu'est née la mégalomanie, un enfant à qui on a dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc j'ai vécu toute ma vie avec cette petite phrase et ce cantique de David. Vous voyez, dans ma vie, il n'y avait absolument rien, et ce rien était pour moi quelque chose de fabuleux. J'avais un berger, j'avais aussi une espérance aveugle et folle que je ne manquerai de rien, et peut-être que je ne manquerai de rien est peut-être le plus grand apprentissage de la vie. Je ne peux manquer de rien quand le ciel est à portée de moi. Je ne peux manquer de rien quand la grâce du poème est en moi. Je dois simplement me faire beau pour accueillir cette parole. Je dois simplement être présent dans la présence de la cosmogonie qui m'entoure pour entrer dans cette nature qui tourne avec moi. Ce qui fait de moi la somme des visages et des paysages. Ce qui enfle mon être de toutes les expériences du monde. J'ai toujours soif, j'ai toujours faim du monde. C'est ce qui anime ma poésie. C'est ce rêve d'être vivant parmi les éléments vivants qui me pousse à désirer, désirer le désir, désirer le possible et désirer l'impossible. Tout ce que je vous dis a l'air de n'être qu'un vœu surréel. Tout ce que je vous dis a l'air d'une fable que je vous raconte. Je vous dirai que la poésie est d'abord cette aube à veiller. La poésie est d'abord cet espoir à espérer, à fonder et refonder. La poésie est la respiration du monde. N'arrêtons pas de respirer. La poésie est magie, comme nous le dit bien Aimé Césaire. Magie, dans le sens de cet art fondé sur une doctrine qui postule la présence de la nature, de forces immanentes et surnaturelles, et qui guide nos pas. Je vous laisse avec un texte d'Aimé Césaire, extrait de Cahier d'un retour au pays natal.
Debout maintenant, mon pays et moi. Au bout du petit matin, flaque perdue, parfum errant, ouragan échoué, coque dématée, vieille plaie, eau pourrie, buée, volcan enchaîné, mort mal raciné, crié amer, j'accepte. Et mon originale géographie aussi. La carte du monde faite à mon usage, non pas teinte aux arbitraires couleurs des savants, mais à la géométrie de mon sang répandu, j'accepte. Et la détermination de ma biologie, non prisonnière d'un angle facial, d'une forme de cheveux, d'un nez suffisamment aplati, d'un teint suffisamment mélanien, et la négritude, non plus un indice céphalique ou un plasma ou un soma, mais mesuré au compas de la souffrance. Et le nègre, chaque jour plus bas, plus lâche, plus stérile, moins profond, plus répandu au dehors, plus séparé de moi-même, moins immédiat avec moi-même, j'accepte tout cela. Et loin de la mer de palais qui déferle sous la cisige suppurante des ampoules merveilleusement couchées le long de mon pays dans le désespoir de mes bras, ces eaux ébranlées et dans ses veines le sang qui hésite comme la goutte de lait végétal à la pointe blessée du bulbe. Et voici soudain que force et vie m'assaillent comme un taureau et l'onde de vie circonvient, la papille du morne. Et voilà les veines et vénules qui s'affairent au sang neuf et l'énorme poumon des cyclones qui respire et le feu thésaurisé des volcans et le gigantesque pouls sismique qui bat maintenant la mesure d'un corps vivant en mon ferme embrasement. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme et la force n'est pas en nous. Mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit, l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique, et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur, et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force, et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite.
Merci. à notre commandement sans limite, c'est ce travail que Césaire nous prie de commencer. Et pourquoi Aimer Césaire? Parce que Aimer Césaire, du plus loin que je retourne, c'est le livre Cahier d'un retour au pays natal dans lequel j'ai appris pratiquement la langue française. Donc je connaissais par cœur ce livre. Au bout du petit matin, cette ville plate étalée, cette ville passée à côté de son cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier parce qu'on le sentait. C'est comme ça parce qu'on n'avait pas de livre. Quand on n'a pas de livre, avec nos amis, on ne fait que lire. Et que c'était ça, nos jeux. C'est-à-dire, je jouais avec du Césaire. On se passait les mots de Césaire. La vie n'est pas un spectacle et l'autre reprend, etc. Donc, c'était... Et tout ça nous a aidés à incorporer dans notre propre corps cette magie appelée par Césaire, cette magie, cet art du commandement sans limite. C'est-à-dire où l'être humain ne subit pas le monde, mais où on peut orienté, où on peut. C'est trop facile, cette morbidité qui fait qu'on se met en apnée, qu'on se met en dehors de nos propres actions, c'est-à-dire où on oublie nos puissances. Et je suis dans ce sens un magicien. Césaire définit la poésie comme étant la magie qui permet de transformer les choses et d'habiter la terre, d'habiter réellement la terre. Donc c'est pourquoi il emploie beaucoup les procédés d'incantation, c'est beaucoup d'incantation chez Césaire. On a l'impression que tout se transforme sous nos yeux, on a l'impression qu'on reste envoûté par le rythme. Il y a tout un mystère de la scansion du poème, et c'est comme ça que je suis formé. Je ne suis pas formé par des maîtres, je suis formé dans la poésie. C'est là où j'ai appris la langue française, parce que ce n'est pas ma langue natale. Les femmes qui sont de ma famille, je parlais leur langue et elles ne parlaient qu'une seule langue, c'était le créole. Même quand elles disaient la Bible en français, elles ne connaissaient pas la langue française. Comme pendant 30 ans, elles étaient à l'église avec les pasteurs, donc elles ne faisaient que répéter. Donc il y a un art du récitatif qui est très très fort. Quand je parle de récitatif, je parle de la puissance d'une langue qui peut être déposée sur des corps qui ne connaissent pas cette langue. Donc ça, c'est le cas de ma grand-mère, de toutes ces femmes-là qui m'ont formé. Et Césaire affirme qu'il est l'émotion première, qu'il est jailli des profondeurs. Et c'est cette poésie des profondeurs qui, moi, en tant que poète, m'intéresse. C'est cette manière d'ancrage, cette manière d'aller au fond des mers, au fond de l'air, au fond des éléments, et de tirer, en fait, de remonter avec ces éléments et de se promener dans le monde et d'aller dans ce que Jean-Claude Charles, un ami poète que j'adore, qui appelle enraciner l'errance. C'est cette manière de s'ancrer dans sa propre errance, dans l'errance de sa propre parole et dans l'errance d'un territoire qui est beaucoup plus large que son propre territoire. Donc c'est cette parole saccadée de Césaire, cette parole magique qui m'a toujours habité. Et je n'avais rien, ce n'était rien pour moi, mais c'est tout ce que j'ai, ces mots de Césaire, ces mots extraits de Cahier d'un retour au pays natal. Quand Césaire dit « j'accepte », et je pense que cette acceptation, c'est une manière de résurgence. Ce n'est pas une manière docile d'accepter une posture de victimisation. Au contraire, c'est une manière de trouver le commandement. Le commandement de son engagement par rapport au monde, son positionnement par rapport au monde. Donc, je dirais simplement, en fait, pour conclure, je parlerai de l'aube, parce qu'on a le titre de la communication, c'est le feu, l'aube, etc., que l'on doit veiller. Et le feu, je parle beaucoup de feu, parce que la poésie, elle est magie au sens où elle doit irradier. Le monde, elle doit casser l'existant, l'étant, pour laisser place au surgissement du je ne sais quoi. Cette histoire qui n'est pas racontée de Joséphine Bacon, ces formes qui ne sont pas encore épuisées, ces peuples qui ne sont pas encore parvenus au langage, c'est ce côté barbare de la littérature qui m'intéresse. Ce sont ces villages, pas ces métropoles qui m'intéressent. Ce sont ces villages que l'imaginaire doit transformer en métropole. Chatry m'intéresse beaucoup plus que Paris. Chatry m'intéresse beaucoup plus que Bruxelles, parce que personne ici ne connaît Chatry. Et Chatry, c'est ma propre légende. Donc je ne vais pas donner ma légende à... Je ne vais pas tronquer ma légende contre celle d'Apollinaire. Je vais lire Apollinaire, je vais me promener dans la légende d'Apollinaire, mais les voix qui parlent dans ma tête, c'est les voix de Tida, les voix de Bertha et les voix de Contita. Et en poésie, il y a des choses à ne pas trahir. Ces voix-là, soyez-en sûrs, je ne les trahirai jamais. Et je vous disais, c'est ce côté barbare qui m'intéresse. En publiant là, Je suis la fille du barbare brûlé, je voulais en fait rendre hommage à ces voix-là. Je voulais que ces voix-là parlent en moi. C'était difficile parce que je viens d'une culture où on dit aux hommes, mets tes garçons sous vous. Sois vraiment homme, mets du masculin sur toi, pour traduire ça, c'est-à-dire sois un vrai macho. Et c'est des femmes qui vous disent ça, vraiment sois, fais de toi un homme. Donc, et c'était très difficile de me mettre dans la peau de ces femmes-là, je suis la fille du barbare brûlé. Et pour cela, je voulais mettre en exergue une femme poète qui me parle, et qui parle dans ma tête, et qui, me parle, et qui ne parle qu'à moi. Et qui était dans l'extrême de sa parole. Et j'ai trouvé cette femme, c'était très très dur, cette femme c'est Daed Haddad, encore que personne ne connaît à mon sens, c'est-à-dire que moi je suis aussi, en fait peut-être très iconoclaste, peut-être c'est ma mégalomanie, je veux chercher des choses que les gens ne connaissent pas. Parce que si vous le connaissez, pour moi ça n'existe plus. C'est-à-dire que je pourrais vous parler d'Éluard, qui allume le feu, mais tout le monde connaît ça. Donc je préfère aller vers une femme que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître, qui s'appelle Daed Haddad. Et je mets en exergue, ça m'a beaucoup fasciné, cette femme dont j'ai découvert la poésie. Cette femme, elle est décédée. Et puis son poème dit « Je suis seule qui porte les fleurs à sa tombe. Je suis la fille de Satan. Je suis la fille de cette nuit ensorcelée. La fille de ma conscience et de mon ami, moi. Je suis plus ancienne que les gens. Je suis le vin de mes veines. Je suis celle qui porte les fleurs à sa tombe. Et elle pleure de la force du poème. De ma vie se construisent les palais. Ils se complaisent dans mon sang. Et les anémones sont les sœurs du bien-être. De mon chant sont arrachés mes exils. » Avant de conclure, je laisse... lire pour moi le troisième texte, qui est un texte de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien que vous connaissez et qui m'a complètement colonisé.
Partons tels que nous sommes, une femme libre et son ami fidèle. Partons tels que nous sommes, de Babylone nous sommes venus avec le vent et vers Babylone nous marchons. Mon voyage n'était pas suffisant pour que, sur ma trace, les pins se changent en mots de louange du lieu méridional. Nous sommes bons ici, vent du nord, notre vent est méridional et les chansons. Suis-je une autre toi, et toi un autre moi? Ce n'est pas mon chemin à la terre de ma liberté, mon chemin à mon corps, et moi, je ne serai pas moi à deux fois. Maintenant que mon passé a pris place, la place de mon lendemain, que je me suis scindée en deux femmes, je ne suis ni orientale ni occidentale, et je ne suis pas un olivier qui a ombragé deux versets. Partons donc, pas de solution collective aux obsessions personnelles. Il ne suffisait pas d'être ensemble pour être ensemble. Il nous manquait un présent pour voir où nous étions. Partons tels que nous sommes, une femme libre et son vieil ami. Partons ensemble dans deux chemins. Partons ensemble et soyons bons.
Partons ensemble, soyons bons. Quel programme. Et c'est ça que, en écrivant Je suis la fille du baobab brûlé, et qui est dédié à l'une de ces femmes de ma famille, Bertha, ma mère. Donc j'ai pu voir, en fait, prendre rendez-vous avec le soleil. Et je pense que c'est ça le rôle de la poésie. La poésie nous permet de nous connecter à une histoire et de prendre rendez-vous avec le soleil, avec la mer, avec etc. Donc je suis la fille du baobab brûlé, ceci est mon nom d'aube. Je ne suis ni Marie ni Altagrâce, je n'aime pas le destin des vierges, ni leur visage gravé dans le bois de tilleul. Elle murmure de sa voix claire, je suis la fille du baobab brûlé, j'ai rendez-vous avec le soleil. Et quand j'ai dit j'ai rendez-vous avec le soleil, en fait j'y crois que j'ai rendez-vous avec le soleil. C'est-à-dire c'est effacer toutes les ombres qui m'assaignent, qui s'amassent en moi, et j'avance vers le soleil. C'est ce que je fais tous les matins pour me mettre debout. C'est comme ça. Je rame, je mets du côté les douleurs, les ombres, etc. Et je prends rendez-vous avec le soleil. Et c'est pourquoi je dis que la poésie est feu. Feu au sens où l'entend, elle transforme, elle irradie pour faire renaître. Elle amène après la mort la naissance douce et belle. Et c'est pourquoi je fais confiance à la poésie. C'est pourquoi je fais confiance à la vie. Parce que j'ai un berger, parce qu'il ne me manquera. Je ne manquerai de rien. Parce que je fais confiance à l'absolu. Et c'est pourquoi j'existe, j'écris et je brûle tout ce qui me touche pour pouvoir renaître au contact du feu, de l'eau et de toutes ces métamorphoses qui nous plongent dans les vertiges des choses et des mots. J'aimerais bien finir avec le poème de Paul Éluard, « Du charbon, ils font du feu, des baisers, ils font des hommes, c'est la dure loi des hommes, se garder intact malgré les guerres et la misère, malgré les dangers de mort. C'est la chaude loi des hommes de changer l'eau en lumière, le rêve en réalité et les ennemis en frères. Une loi vieille et nouvelle qui va se perfectionnant du fond du cœur de l'enfant jusqu'à la raison suprême. C'est la chaude loi des hommes de changer l'eau en lumière. Voici l'eau, voici la lumière. Merci.
Merci.